Olivier Vallée, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les militaires occupent une place primordiale dans la vie politique malgache ?
Publiquement, on ne peut pas dire qu'ils occupent une place primordiale. C'est un peu le thème de mon livre, c'est comment essayer de faire apparaître leur insertion très forte, justement, à la fois dans l'appareil étatique, mais aussi dans la vie politique, sans qu'ils apparaissent comme étant en première ligne.
Mais tout de même, vous dites qu'ils sont dépositaires de la légitimité monarchique d'avant la colonisation française.
Oui, je pense que la discrétion, toute relative, certes, qu'ils ont dans la vie politique, tient au fait que leur légitimité s'ancre dans un passé historique où ils ont été en premier rang du point de vue politique. La plupart des premiers ministres, des reines, étaient des militaires.
Au XIXe siècle.
Tout à fait. Et étaient également des grands commerçants et souvent des chefs de faction.
Et puis des lettrés. Vous parlez d'une noblesse qui allie le papier et l'épée.
C'est exact. La puissance de la London Missionary School aura été de s'associer à la monarchie merne.
Et peut-on dire que jusqu'à aujourd'hui, les officiers supérieurs appartiennent majoritairement à la communauté merne des Hauts-Plateaux ?
Non, ce n'est plus exact. Mais l'identité ou le substrat merne sont subsumés, sont anoblis par le fait que la nation s'est incarnée à un moment dans l'armée merne. En particulier dans sa résistance au colonialisme.
Alors les militaires arrivent sur le devant de la scène en 1972, lors de la première révolution. Peut-on dire que la célèbre académie militaire d'Antsirabe, où l'élève officier Thomas Sankara est passé, peut-on dire que cette académie a été le creuset de la révolution de 72 ?
Non. Vous avez mentionné Thomas Sankara, mais je crois même que Marien Gouabi est passé aussi par cette académie. Cette académie a un rôle important dans la formation de cadres des autres pays africains. Ceux qui prennent le pouvoir en 1972 sont tous issus des grandes écoles françaises, à commencer par le général Ramanantsou et bien entendu par Didier Ratsirak.
À partir de 1975, le président Ratsirak politise l'avancement des officiers, écrivez-vous. Est-ce en représailles que plusieurs officiers soutiennent Marc Ravalomanan lors de la grave crise électorale de 2001-2002 ?
Pas vraiment, parce que les généraux qui soutiennent Marc Ravalomanan n'ont pas véritablement souffert de la politisation de l'armée au sens de Ratsirak, qui a su être assez généreux. Et je crois que les hauts gradés qui se rallient à Marc Ravalomanan sont parmi ceux qui auront été les plus gâtés par Didier Ratsirak. Il s'agit d'un opportunisme militaire.
Ils sentent que le vent tourne.
Tout à fait. Et que de nouvelles gratifications sont à la clé de leur retour. Sachant que le retournement à Madagascar a un sens symbolique très fort puisqu'il concerne au premier chef les morts.
Alors après 1972, c'est en 2009 que les militaires reviennent au devant de la scène politique lors de la fameuse mutinerie qui renverse Marc Ravalomanan et porte Ange Radzoel au pouvoir. Est-ce que les milices pro-Radzoel étaient en fait des militaires déguisés en miliciens ?
Pas vraiment, parce que les militaires, à commencer par Didier Ratsirak, ont toujours à côté de leur propre équipe militaire, ont toujours des milices. Ce qui est intéressant du point de vue militaire dans le coup d'État qui amène Radjoel au pouvoir, c'est que ce n'est pas un coup d'État de haut gradé. Ce sont des colonels et des capitaines qui sont à la manœuvre. D'ailleurs, les plus gradés, ils sont exclus du jeu par justement les colonels lors de la fameuse scène de l'évêché où ils sont arrêtés et conduits.
Oui, c'est chaud en mars 2009 et on voit bien que l'armée est divisée entre les officiers les plus âgés qui soutiennent, semble-t-il, Ravalomanan et les plus jeunes, les moins gradés qui soutiennent Radzoel.
C'est exact, mais en même temps, les choses vont rentrer dans l'ordre après la prise du pouvoir par Radzoel, puisque les généraux et amiraux qui avaient été éliminés par les colonels lors de la fameuse scène de l'évêché en mars 2009 reviennent au gouvernement, alors que les colonels qui ont été actifs dans ce coup d'État de Radzoel, eux resteront dans l'ombre, n'ont pas de poste de ministre, ne rentrent pas au gouvernement.
Donc les bureaucrates galonnés prennent le dessus sur les centurions parachutistes, comme vous dites.
Tout à fait.
Et ensuite, dites-vous, sous la période de la transition Radzoel, les militaires maillent le gouvernement et la haute fonction publique. Ils ne rechignent pas à se mêler au trafic en tout genre, notamment celui du bois de rose.
C'est exact. La paix avec les militaires est acquise par Radzoel en leur confiant des zones de contrôle du bois de rose pour participer à la grande opération de pillage qui va culminer, il ne faut pas l'oublier, au moment des élections et mettre en place à l'Assemblée nationale des hommes politiques que l'on voit à la manœuvre aujourd'hui, qui sont principalement des élus du Bois de Rose, puisqu'ils ont acheté leur vote et qu'ils ont acheté également leur tranquillité comme exploitants illégaux du Bois de Rose en prenant une couverture politique, mais en associant également leurs opérations avec des militaires.
Vous parlez des élections de 2013.
Exactement.
Depuis cette élection de 2013 qui a vu arriver au pouvoir R. Razonar Mampian, est-ce que les militaires ont perdu de l'influence dans la sphère politique ou pas?
Dans la sphère bureaucratique, ils n'ont pas perdu d'influence parce que les militaires, en particulier en fonction de leur rang hiérarchique, sont encore déterminants au pouvoir aujourd'hui et sont également très présents dans les ministères et dans les régions. Et ils ont consolidé même avec R, le nouveau président, ils ont consolidé leur maillage ou leur intrication dans le système politique et dans le système bureaucratique.
Vous parlez même de leur insertion souterraine dans la gouvernance criminelle. C'est sous Radzoel ou c'est sous la présidence actuelle?
C'est sous Radzoel qu'ils s'intègrent complètement dans la gouvernance criminelle. Aujourd'hui, ils se trouvent concurrencés dans cette gouvernance criminelle par les députés du Bois de Rose.
Jeudi dernier, après 5 semaines de crise politique, le ministre de la Défense, qui est un général de l'armée de terre, a posé la police et l'armée comme les derniers remparts de la nation malgache. Est-ce que ce n'est pas une forme de menace?
Oui, c'est une forme de menace et ça rappelle beaucoup les propos que tenait l'armée et le général Ravalomanan, général de la gendarmerie, pendant la campagne électorale de 2013. Très souvent, les discours du général Ravalomanan à l'époque...
Qui n'a rien à voir avec l'ancien président.
Oui, qui est un homonyme. Et donc, ce que je disais, c'est que les militaires sont toujours des arbitres, et je pense des arbitres partiaux des conflits politiques et électoraux. Dans le cas de l'actuel ministre de la Défense, qui a pris la parole à plusieurs reprises, il a tenu un discours assez clair vis-à-vis de Radzoel et de Marc Ravalomanan, en disant qu'il faut revoir les lois électorales pour qu'il puisse se présenter. Je soutiens le principe qu'il soit candidat. Je parle à la place du ministre de la Défense, mais je ne suis pas derrière l'un d'eux.
Oui, ça c'est le discours du ministre de la Défense qui, à la limite, peut rouler pour lui-même, non?
C'est quelque chose qui est loin d'être exclu.
Olivier Vallée, merci.